Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans les contes de Jean Lorrain, on trouve des sirènes, des princes de nacre, mais aussi une grotte où dorment des dizaines de guerriers endormis, nus, enlacés les uns contre les autres, des jeunes, des vieux, des éphèbes blonds et imberbes, des puissants lutteurs aux muscles saillants, des bohémiens au teint mat. La princesse Zouvert, première diffusion sur France Culture le 6 janvier 1994.
Princesse d'Ivoire et Prince de Nacre. Texte de Jean Lorrain, adapté par Alain Pozzioli. Réalisation Christine Bernard-Sugy. Aujourd'hui, la princesse Zouvert.
Il faut aimer les contes. Il faut s'en nourrir et s'en griser. Comme un vin dangereux et léger. Il n'est pas au monde d'émotions un peu délicates qui ne reposent sur l'amour du merveilleux et la nostalgie de l'enfance. De celle-ci, je garde le souvenir parfumé des contes hallucinants dont les personnages galopaient la nuit dans mes rideaux. Des histoires de fées, des histoires de sorcières, des histoires de princes sans amour et de princesses enchâssées dans des cercueils de verre.
Doux Seigneur, petite princesse, comme vous ressemblez à votre mère dans la clarté de ce vitrail. Il me semble la voir sourire de son regard mélancolique lorsqu'elle rêvait à son pays, l'Occitanie.
Raconte-moi, Ganaël, ce pays que je ne connais pas.
C'est un pays de soleil et d'or bleu qui miroite sur les eaux et flamboie dans les cieux. On y voit quelquefois des hordes de chevaux sauvages s'ébrouer dans les prés, heureux de vivre.
Comme ce doit être beau et différent de la grisaille d'ici.
Oh oui. Votre mère n'a jamais pu se consoler d'avoir quitté son royaume de grèves d'or. Dans les derniers mois de sa vie, poussée par le dégoût que lui inspirait le paysage, la reine a fait murer jusqu'à mi-hauteur toutes les fenêtres de sa chambre pour ne plus voir que le ciel. Et elle passait ses journées dans le clair-obscur de sa chambre, les yeux fixés sur un grand miroir qui reflétait les nuages. Mais cessons de parler de choses tristes, princesse. Rejouez-moi un peu de musique, voulez-vous ?
Si tu veux.
De toucher un quelconque instrument de musique. Je hais la musique. J'ai promis d'écorcher vif le premier musicien qui s'arrêtera au château. Voulez-vous subir le même sort, cousine ? Si jamais je vous retrouve avec ça entre les mains, je piétine l'instrument et je brise vos doigts à coups de maillet. Et si ça ne suffit pas, je vous égorge. C'est clair ?
Prince Otto, je vous en prie, modérez vos propos, vous effrayez cette petite.
Mais silence, vieille folle. Pas à toi que je m'adresse.
Ma toute belle, ne pleurez pas. Votre cousin est un brigand, le diable lui a soufflé sur les yeux. Il n'a que rage et dépravation.
Pourquoi est-il si méchant ? Et pourquoi déteste-t-il à ce point la musique ?
Oh, ma pauvre enfant, c'est une vieille histoire qui remonte à quelques années. Vous étiez encore toute jeune. Il fut alors la victime d'une vengeance de bohémien, un zingaro dont par caprice il avait pour une nuit confisqué la maîtresse et qu'il avait fait rouer de coups de fouet pendant ce temps. Pour se venger, une nuit, le bohémien s'est introduit dans les appartements du prince et au lieu de lui planter sa dague dans le cœur, il lui joua toute la nuit de la musique sur un violon magnifié dont les cordes, dit-on, étaient faites de cheveux de pendu.
Oh, quelle horreur!
Depuis cette nuit, la raison du prince Otto a sombré dans l'inconnu. Il s'est mis à agir comme un bandit de grand chemin et l'horreur de la musique l'a envahi. Mais, petite princesse, vous êtes bien pâle, tout à coup.
Je ne me sens pas très bien. Et mon père qui n'est pas là.
Allongez-vous, mon enfant. Je reviendrai vous voir lorsque le soleil commencera à jouer avec la cime des arbres.
Réveillez-vous, ma jolie princesse, il est l'heure. Bertrade. Princesse. Oh mon Dieu. Elle ne respire plus. Ma petite princesse est morte. Elle est encore plus belle morte que vivante. Oh, Monseigneur l'évêque, quel grand malheur.
Ma fille, en l'absence du roi parti guerroyer, c'est à moi qu'incombe la douloureuse charge de mener cette jeune âme sur la route de notre Seigneur. C'est donc moi qui désignerai l'ordre des cérémonies.
Voyez, Monseigneur, elle paraît encore plus petite entre cette double rangée de cierges.
Le Seigneur t'a rappelé à lui, ma douce enfant, car ton cœur était trop pur pour ce bas monde. Je te bénis au nom du Père, du Fils. Mais cette enfant n'est pas morte.
Comment ?
Mais oui, elle respire. Faiblement, d'un souffle imperceptible, mais elle vit.
Oh Dieu, merci, c'est un miracle.
Je veux qu'elle soit exposée 3 jours durant sur un grand échafaud drapé de velours blanc au centre de la cathédrale et que des messes soient célébrées sans interruption jusqu'à ce que notre Seigneur, ému par ses suppliques, redonne à la princesse le souffle du réveil.
Je demeurais immobile et dormante au milieu des brocarts, des cierges allumés et des fleurs. Je dormais. Pourtant, j'entendais tout. Et je voyais tout, les yeux fermés, de ces fastes funèbres.
Oh, mon Seigneur.
Alors ?
Elle ne se réveille toujours pas. Elle ne vit ni ne meurt. C'est une bien étrange malédiction.
Si demain elle n'est pas réveillée de ce charme, nous tenterons autre chose pour la ramener à la vie.
Quelle chose, Monseigneur ?
Nous ferons construire un cercueil de verre dans lequel nous coucherons la princesse et nous la promènerons ainsi dans tout le pays, à travers les bourgs et les campagnes,
et la feront suivre d'un long cortège de pénitents et de fidèles en prière, avec des haltes dans tous les couvents et toutes les chapelles du royaume. Ainsi Dieu prendra-t-il peut-être enfin notre douleur en pitié.
Que le ciel vous entende, mon Seigneur.
Seigneur, le prince Otto et sa horde de brigands. Mon Dieu, protégez-nous de cet être fou et vil.
Dégarpissez, bande de picrois. Allez faire vos banques de vieilles. Allez, dégarpissez.
Prince Otto, je vous interdis de toucher au cercueil de la petite princesse. C'est votre cousine. Vous n'avez pas le droit. C'est un sacrilège. Prince Otto, par pitié, éloignez vos chiens. Je vous en supplie. Ils vont mettre le corps de Bertrand en châtie.
Va au diable, pernicieux!
Le prince Otto, mon cousin, avait tué ma seconde mère, la brave Ganaëlle, et précipité mon cercueil dans le fossé, semant la consternation dans les campagnes. Et moi, toujours endormie et muette, j'assistais, l'âme en effroi, à tout ce massacre, sans pouvoir rien faire ni dire. Au petit matin, quelques représentants de l'évêque Afranus et du roi, mon père, retrouvèrent ma dépouille et la firent porter sur le maître-autel de la cathédrale. Les années passèrent. Mon père, le roi, mourut. L'évêque Afranus le suivit de peu dans le chemin de la clarté céleste. Quant à mon cousin Otto, privé du jour au lendemain du récit de nouveaux et sinistres exploits, on finit par l'oublier tout à fait. Et moi, toujours dormante et en vie, je demeurai allongée sous un vaste drap d'or. Jusqu'au jour où...
Monseigneur, je pense qu'il faudrait absolument que cette fausse sainte disparaisse de cette cathédrale.
Ce que mon fils, l'évêque Afranus, avait voulu jadis que le corps de la princesse demeurât dans ces lieux jusqu'à...
Afranus est mort depuis une quarantaine d'années, monseigneur. Et ici, les vivants commencent à parler de choses extraordinaires à propos de cette morte qui, paraît-il, selon certains, respirerait encore. Croyez-moi, il faut mettre un terme à tout cela. On évoque la sorcellerie qui seule pourrait expliquer cette anormale survivance. On parle même de vampires. La rumeur court et cette chapelle devient suspecte aux yeux de tous. De moins en moins de paroissiens viennent ici suivre les offices. Ils ont peur. Je vous en supplie, monseigneur, vous seul en tant qu'évêque avez le pouvoir de faire cesser ces bruits et de rendre au culte cet endroit.
Que proposez-vous, mon fils?
Sortons cette chose de ces lieux sacrés et portons-la en terre comme n'importe quel autre cadavre.
Tout cela est très ennuyeux, en effet, mais si cette chose est toujours vivante, Dieu nous interdit de commettre le sacrilège d'abréger cette vie en la mettant en terre. Il nous faut trouver une autre solution, mon fils.
Je crois en avoir une, monseigneur.
À présent, installez le cercueil sur cette barque. C'est parfait. Monseigneur, à présent, vous pouvez bénir le corps de la princesse.
Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Allez, poussez la barque vers le milieu de la rivière.
Pauvre cousine. Qu'ai-je fait? Qui étais-je donc à l'époque pour avoir commis autant de crimes? Pourras-tu me pardonner de t'avoir fait ton mal? Dieu, dans son infinie miséricorde, m'a accueilli ici, dans ce couvent, pour que je fasse pénitence et que j'expie tous mes péchés. Depuis toutes ces années, je n'attendais qu'une chose. Un signe de la Providence pour me faire comprendre que tu m'avais pardonné. Je savais que je ne pourrais plus jamais trouver la paix avant d'avoir ton pardon. Oh, Bertrand, je t'en supplie. Je sais que tu m'entends. Plus que cela pour mourir. Fermez les yeux à jamais. L'un et l'autre.
Toute la nuit, le prince Otto la passa en prière, à genoux sur la berge, sous la neige tombante. On avait allumé de grands feux. Les moines rangés autour chantaient tour à tour l'Hosanna et le Miserere. Enfin, Aux premières lueurs de l'aube, les glaces se fendirent. La barque merveilleuse descendit les eaux lentes, puis disparut à un tournant du fleuve. À tout jamais.
Princesse d'Ivoire et Prince de Nacre. Texte de Jean Lorrain, adapté par Alain Pozzioli. Aujourd'hui, la princesse Souvert. Muriel Brenner, Bertrade. Jeanne Sellard, Ganaël. Bernard-Pierre Donadieu, le prince Otto. Maurice Bourbon, l'évêque Afranus. Christophe Holwright, le prêtre. Jean-Louis Greenfeld, un évêque. Et Alain Libolt, Jean Lorrain. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage Monique Burger et Philippe Bredin. Assistante Véronique Lamandour. Réalisation Christine Bernard-Sugy.
Cette fiction a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 janvier 1994. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.